Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation. Arrivé ce jeudi à Goma, dans le Nord Kivu, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, salue la résilience des populations de cette ville et des environs. Une résilience remarquable, la qualifie-t-elle. Elle y est, en tout cas, d'après elle, pour écouter et exprimer sa solidarité envers les habitants et le personnel de la MONUSCO. C'est avec cette nouvelle que nous ouvrons ce journal vespéral sur Radio Okapi. Les rebelles ADF, encore eux, et une fois de plus au banc des accusés dans la localité Banango, territoire de Lubero dans le Nord Kivu. Ils y ont tué 35 personnes, nous dit la société civile. Un bilan encore provisoire, les FRDC sont à leur trousse. Actualité à suivre aussi dans cette édition. Crispin Kabolongo, président de l'ONG Action contre les violences des droits des personnes vulnérables, invité de ce journal, nous fait le point sur la situation du travail des enfants en RDC. D'après lui, la situation n'est pas du tout reluisante. Et pour mieux en apprendre assez, restez avec nous sur les différentes fréquences de Radio Okapi, votre source d'information fiable. Fidèles auditeurs, bienvenue, excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cette réplique dans l'affaire Constant Mutamba. Le procureur général près la Cour de cassation réplique officiellement la récusation faite par le ministre de la Justice sur instruction relative au détournement des présumés 19 millions de dollars, accusant réception de sa lettre de récusation. Firmin Vondé informe le ministre de la clôture de l'instruction préjuridictionnelle à son encontre. Cette cause où vous êtes poursuivi pour détournement des deniers publics est clôturée en ce qui vous concerne, peut-on lire dans la lettre parvenue à notre rédaction. Par ailleurs, le procureur général écrit au ministre qu'il lui serait gré de garder sa sérénité pour la suite de la procédure. Un bon légaliste, dit-il, il s'en est tenu qu'au prescrit légal et ce, en dehors de toute autre considération. Le parquet attend à présent la réponse de l'Assemblée nationale à son deuxième réquisitoire pour déterminer la suite de la procédure. Je l'ai dit tout de suite dans le sommaire de cette édition. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO est arrivée ce jeudi à la mi-journée à Goma. L'agenda de Mme Bintou Keïta prévoit une rencontre ce jeudi même avec le personnel civil et de la force de la MONUSCO basée à Goma. Il est également prévu au cours de son séjour à Goma des rencontres avec quelques organisations locales dont celle des femmes. Il faut noter par ailleurs que la chef de la MONUSCO rencontrera les représentants de l'AFCM-23 afin d'échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. À son arrivée, Mme Bintou Keïta a déclaré, je cite, « Je suis ici pour écouter et exprimer ma solidarité avec la population de Goma et avec le personnel de la MONUSCO. Votre résilience est remarquable, peut-on lire sur le compte X de la MONUSCO. » La mission de la SADC en RDC a commencé le mercredi. La deuxième phase du retrait progressif de ces contingents de la ville de Goma et de la cité de Sake dans le territoire de Masisi. L'annonce est contenue dans un communiqué de presse publié depuis Gaborone, capitale du Botswana, où se trouve le siège de la SADC. C'est cette opération qui justifie la présence des autocars ayant été vus se diriger vers la cité de Sake. Plotin Mbenga nous donne les détails.
Cette phase concerne les rapatriements du personnel de la mission SAMI RDC et de leurs effets personnels. La première phase, lancée le 29 avril 2025, avait concerné l'évacuation des équipements et autres logistiques. Les retraits officiels de la SAMI RDC avaient été annoncés le 1er mai 2025, une décision prise à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe tenue le 13 mars 2025. Ainsi, les troupes actuellement stationnées à Goma et à Sake seront transportées vers la République unie de Tanzanie. Dès là, les contingents tanzaniens poursuivront vers Dar es Salaam. Quant aux Sud-Africains et aux Malawites, ils seront transportés par voie aérienne vers leurs pays respectifs, précise les communiqués. Les communiqués de la Force de défense nationale sud-africaine, daté de mercredi à de son côté, annoncé pour ce vendredi l'accueil du premier groupe de militaires ayant participé à la mission de la SADC en RDC. Les retraits ordonnés de la SAMI RDC reflètent l'adhésion de la région au principe de sécurité collective et renforcent la détermination de la SADC à soutenir la résolution pacifique des conflits et la stabilité à long terme en RDC, souligne les communiqués de l'organisation régionale.
Description à présent de la situation dans la province du Nord Kivu. Une accalmie précaire est signalée ce jeudi dans la cité de Kiwanja, près du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Ce, après une psychose observée tôt ce matin à la suite des détonations d'armes lourdes dans la zone. Selon plusieurs sources locales, les rebelles du M23 mènent des bombardements contre les positions des Wazalendo dans le parc des Virunga, vers Mambenga et Kaunga pour empêcher leurs attaques et embuscades. Cela fait quelques semaines que des incidents et tirs à l'arme lourde sont enregistrés dans cette partie des Rutshuru, opposant les deux forces. Du Nord Kivu, nous nous rendons à présent dans la province voisine du Sud Kivu, où le chef du quartier Mossala dans la commune de Kadutu et l'un de ses chefs d'avenue sont aux arrêts depuis hier. Ils sont accusés d'avoir ordonné à un rebelle du M23 de tirer à bout portant sur un jeune du quartier. Ce dernier était soupçonné d'avoir jeté une grenade sur la foule rassemblée devant le terrain de Founou lors d'un meeting populaire tenu par le bourgmestre de Kadutu le 10 juin dernier. Écoutons cet activiste des droits de l'homme de la commune de Kadutu au micro de Radio Okapi.
La situation de la victime vraiment est toujours critique. Son état est toujours vraiment critique. Il est encore à l'hôpital. Il n'est pas mort. Il était blessé au niveau de la jambe. Et le chef d'avenue qui avait donné l'ordre là, il est aux arrêts. Les autorités, apparemment, ils ont ordonné à ce qu'il soit arrêté, même son titulaire, le chef de quartier. C'est depuis qu'ils ont été arrêtés. Le monsieur ou la victime est toujours au niveau de l'hôpital où il prend les soins.
Retour au Nord Kivu pour parler de cet autre fait de l'aspect sécuritaire dans cette province. Cette fois-ci, nous sommes dans la région de Beni. Au moins 35 civils ont été tués le samedi 7 juin lors d'une attaque attribuée aux rebelles des ADF à Banango, une localité située à environ 200 km du centre de Lubero. Selon des sources administratives de la société civile, les assaillants en fuite après une offensive des FRDC ont d'abord assiégé un site minier avant d'y exécuter la majorité des victimes. Ce bilan reste provisoire, plusieurs civils étant toujours portés disparus. André Kitenge pour d'autres détails.
C'est vers 5h du matin, heure locale, samedi, que les rebelles ADF ont attaqué les sites miniers d'Angola 1 et 2, situés dans le groupement de Bapukara. Selon Maker Sivini Kouloa, chef du secteur de Bapere, ces rebelles ont fui après avoir été délogés par les FRDC de la colline Ekenye dans la localité de Banango, ont exécuté plusieurs civils. Il ajoute que d'autres civils se sont noyés en tentant de traverser la rivière Lubero.
Effectivement, il y a eu une incursion des ADF en fuite et ils ont assiégé un camp minier qu'on appelle Angola 1 et Angola 2. Ils ont commis un massacre là-bas. Jusque-là, le bilan officiel n'est pas encore confirmé, mais nous parle provisoirement de 35 à 36 personnes tuées. D'autres personnes ont été emportées, tandis que un bon nombre s'est noyé dans la rivière Lubero.
Pour l'instant, il reste difficile d'établir un bilan précis, la zone n'étant pas couverte par les réseaux mobiles. Selon le chef du secteur de Bapere, cette situation a provoqué le déplacement massif des habitants vers des zones jugées sûres. Il ajoute que des opérations militaires sont en cours pour récupérer les corps et tenter de retrouver une centaine de personnes encore portées disparues. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Dans sa mission de vous faire découvrir les faits et réalités des coins et recoins de la RDC, Radio Okapi vous amène dans la province du Tanganyika. Les habitants de certains groupements dans le territoire de Moba lancent un cri de détresse face à l'insécurité qui, d'après eux, est alimentée par des éléments d'autodéfense. Face à cette situation, la société civile annonce que plusieurs personnes sont contraintes d'abandonner leur village et leur champ. La société civile appelle les autorités du territoire à rétablir la sécurité dans cette zone. Le point avec Paul Mounanga.
Parmi ces groupements du territoire des Moba qui sont concernés par l'insécurité, il y a Mwindi, Kansabala, Kayombwe, Mpala, Kasokota, Lungungu et Malibu. Les habitants abandonnent leur village et leur champ face à l'insécurité grandissante causée par les éléments d'autodéfense armés des arcs et des flèches, indiquent des sources à Moba. Ils érigent des barrières, rançonnent la population et tabassent les villageois qui ne veulent pas leur donner des biens en nature, rapportent les mêmes sources. La société civile des Moba condamne les exactions commises par ces miliciens. Léon Taboupessa est le porte-parole de cette structure.
Des actes qui sont posés par les soi-disant autodéfense et éléments, ce sont des actes que nous condamnons. Il est vrai que ça fait longtemps que nous leur prodiguons des conseils. Tous ceux qui sont en train de commettre comme actes, ils leur posent à l'égard de leurs frères qui sont natifs du territoire de Moba. Aujourd'hui, les gens ne savent pas cultiver comme il faut au niveau de Maseba. Ils ne savent pas même moissonner.
Contacté par Radio Okapi, le commandant des FARDC forces terrestres dans les territoires de Moba confirme cette information. Le colonel José Toumba annonce que des dispositions sont prises pour mettre fin à l'aventure de ces miliciens. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Vous êtes nombreux à nous suivre partout en RDC, ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Radio Okapi, une voix pour tous, et nous vous donnons à présent la parole par rapport au gouvernement Judith Suminwa qui a totalisé une année à la tête du pays. Pour plusieurs d'entre vous, personnes interrogées ici à Kinshasa, son bilan est négatif. Elles en veulent pour preuve l'occupation toujours en cours d'une partie du pays par des rebelles appuyés par le Rwanda. L'insécurité grandissante même dans la capitale. Elle fustige également le manque d'évolution sur le plan économique, dans le secteur de l'emploi ainsi que dans le social. Toutefois, certains autres Congolais saluent le travail réalisé par quelques ministres, notamment dans la diplomatie. D'autres Kinois habitant des coins jadis enclavés applaudissent aussi des projets routiers en cours chez eux. Suivez les avis des uns et des autres.
Madame Suminwa nous a amené un programme de gouvernance, mais rien ne s'est réalisé. Aucun secteur n'a été développé. Nous sommes en train d'évoluer dans une gouvernance des promesses.
Le bilan est largement négatif. On attendait que ce gouvernement nous résout les problèmes de l'Est. La situation s'est aggravée par contre. La crise économique persiste. Le taux d'échange, nous sommes à 2,89. S'il faut parler de la bonne gouvernance, c'est dans tous les ministères où on parle de détournement.
Beaucoup de jeunes sont en voie de politiques qui jouissent.
Des provinces de notre pays est vraiment cédé. Nos FARDC n'arrivent pas à repousser l'armée rwandaise qui montre que Suminwa n'a rien fait.
Le bilan est moyen. La justice, il y a un changement positif. Affaires étrangères, Maman Thérèse coup de chapeau. Fonction publique aussi, le ministre Julien Paluku aussi. Et les restes, elles étaient des juissaires.
Aucune solution aux différents problèmes qu'elle a trouvés. Nous tournons en rond. Les sociales du peuple, c'est toujours les mêmes pleurs. La ville de Kinshasa est devenue invivable, embouteillage, sans sécurité.
Le gouvernement fournit quand même des efforts de stabiliser les taux d'échange et les carburants, que le gouvernement puisse travailler pour que nous puissions avoir aussi baisse de prix de première nécessité.
Il y a encore beaucoup à régler, mais dans un contexte de guerre, c'est un peu compliqué. Mais elle se bat.
La seule chose que Madame Suminwa a changé, c'est son habillement. Des belles photos et rien de plus.
Depuis quelques jours, la circulation est rétablie entre trois communes de la ville de Bukavu, Kadutu, Bakigira et Ibanda. Cela grâce à la réhabilitation du pont de déviation Nyakiché. Ce pont, situé sur le ravin de la RN2 dans la commune de Kadutu, offre aux populations urbaines et rurales diverses opportunités d'échanges commerciaux. Le trafic à cet endroit était resté interrompu depuis environ 2 ans à la suite d'un litige foncier entre le propriétaire de la concession qui servirait de déviation et le gouvernement provincial. Et nous allons terminer par Bounia avant de passer à la page internationale. Là où règne la paix et la sécurité, le développement s'invite immédiatement. C'est ce qui justifie la présence de plusieurs organisations humanitaires dans notre entité. C'est ce qu'a déclaré à la presse mardi l'administrateur du territoire d'Irumu à Niagabo, un village situé à environ 45 km de Bounia. C'était lors d'une visite effectuée dans la zone par les différents responsables locaux d'un vaste projet agricole exécuté par des anciens combattants reconvertis en agriculteurs. C'est un reportage de Jean-Claude Lokidile.
C'est une vaste étendue de plusieurs hectares où des jeunes de la milice FP, Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, ont planté du maïs, du haricot ainsi que plusieurs autres produits vivriers cultivés avec l'appui d'anciens combattants aujourd'hui reconvertis. Ces jeunes qui jadis entretenaient la violence ont décidé de déposer les armes pour reprendre la houe, conscients que leur pays ne peut se développer s'il y a la guerre, comme le déclare l'un d'eux.
Nous ne voulons pas de la guerre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous lancer dans des activités agricoles. Que ce soit les conflits armés, organiser des pillages, cela ne va pas nous aider.
L'objet de cette mission était d'inspecter ce projet agricole de plus de 5 hectares, déclare le colonel Siro Simba, l'administrateur du territoire du Rumu. Il encourage d'autres groupes armés à suivre ce bel exemple en attendant le démarrage effectif du programme PDDRCS.
Là où il y a la paix, le développement s'ensuit immédiatement. Continuons sur cette lancée pour pérenniser cette accalmie. Un avenir meilleur nous attend.
Je pense que l'avenir est meilleur.
Cette initiative agricole a été encadrée par la MONUSCO à travers sa section désarmement, démobilisation et réinsertion DDR dans le cadre d'un projet à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Actualité internationale.
Le nombre de personnes déracinées par la guerre, la violence et la persécution a atteint l'un des niveaux les plus élevés de la décennie. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a publié son rapport annuel des tendances mondiales. Selon les chiffres comptabilisés, 122,1 millions de personnes se trouvaient en situation de déplacement forcé à la fin du mois d'avril 2025, contre 120 millions à la même époque l'année dernière. Et puis, trois agences des Nations Unies ont mis en garde jeudi contre une famine imminente dans une région du Soudan du Sud frappée par le conflit. Les habitants de 11 des 13 comtés de l'État du Haut-Nil au Soudan du Sud sont désormais confrontés à des niveaux d'urgence de la faim, ont déclaré le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans un communiqué commun. Le Haut-Nil est le théâtre des combats entre les troupes gouvernementales et les milices armées qui s'opposent au gouvernement du président Salva Kiir. Quelque 32 000 personnes souffrent de la faim dans des conditions qualifiées de catastrophiques, soit trois fois plus que les prévisions précédentes.
L'invité.
Ce jeudi 12 juin, l'humanité célèbre la journée mondiale des luttes contre le travail des enfants. Invité sur Radio Capi, le président de l'ONG Action contre les violences des droits des personnes vulnérables, Crispin Kabolongo, regrette que des milliers d'enfants congolais soient encore soumis aux pires formes de travail, notamment dans les carrières minières. Il interpelle ainsi les autorités parentales, scolaires, ecclésiastiques et politiques à prendre des mesures drastiques afin de décourager le pire forme de travail des enfants à travers le pays. Crispin Kabolongo s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Crispin Kabolongo.
Bonjour Monsieur le journaliste.
L'humanité commémore ce 12 juin, la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par un travail d'enfant?
Lorsqu'on parle de travail des enfants, ici on fait allusion à la convention 182 de l'OIT, Organisation Internationale du Travail, qui interdit à ce que les enfants puissent exercer des activités ou des travaux qui nuisent à sa santé.
Donc tout travail qui ne nuit pas à la santé de l'enfant n'est pas considéré comme un travail prohibé, c'est ça?
Bon, ça dépend. Parce qu'au niveau des maisons, il y a des enfants qui exercent des petits travaux pour aider la maman ou le papa à la maison. Là, ce sont des travaux qu'on peut accepter. Mais il y a des travaux qu'on appelle pire forme de travail des enfants. Par exemple, les enfants qui vendent de l'eau dans la rue, et ces enfants-là transportent de lourdes charges. Et ces charges ont des conséquences sur leur santé.
Quel est le sens que vous donnez à la thématique de cette journée mondiale, à savoir agir maintenant, mettre fin au travail des enfants?
Par rapport à ce thème, nous, Action contre les violations des droits des personnes vulnérables, ACV des Pensibles, nous réaffirmons notre engagement pour l'élimination des pires formes de travail des enfants à Kinshasa et à République démocratique du Congo. Comme vous le savez, notre pays a ratifié plusieurs conventions au niveau international, dont la convention 182 de l'OIT. Il y a également la convention relative aux droits de l'enfant. Et au niveau interne, nous avons la loi portant protection de l'enfant congolais. Tous ces instruments juridiques interdisent à ce que les enfants puissent exercer des activités commerciales ou des activités qui pourraient nuire à la santé. Or, sur terrain, qu'est-ce que nous constatons? Des milliers d'enfants sont encore exploités sous différentes formes. Ici, à Kinshasa et en RDC. Quand vous circulez les rues de la ville province de Kinshasa, vous trouverez des enfants qu'on appelle Bana Mai, Bana Kwata, Bana Wewa, Bana Drigo, Bana Efe. Donc, il y a plusieurs formes de travail des enfants qui existent ici dans la ville province de Kinshasa. Si nous allons à Kolwezi, nous trouverons également des enfants qui travaillent dans des mines. Or, la convention 180 de l'OIT que notre pays a signée interdit ce genre de pratiques.
Que faire, selon vous, pour décourager le pire travail des enfants à travers les pays?
Pour décourager les pires formes de travail des enfants à travers les pays, nous appelons d'abord les autorités, les familles, les écoles, la société civile, à agir maintenant pour renforcer les mécanismes de protection et de retrait des enfants de ces activités, de sanctionner les exploitants. Et puis, nous voulons voir des tribunaux pour enfants ouvrir des procès par rapport aux personnes qui exploitent les enfants. Et ils sont nombreux, ceux qui exploitent des enfants. Or, la place de l'enfant, c'est à l'école et non dans la rue, afin d'exercer des activités lucratives. Voilà un peu notre message par rapport à la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants.
Est-ce que les travaux domestiques aussi font partie des pires formes de travail des enfants?
Lorsque la maman envoie un enfant pour lui amener, par exemple, de l'eau, là, ce n'est pas une pire forme de travail des enfants. Mais lorsque vous donnez à un enfant un sac de foufou pour transporter, là, ça devient les pires formes de travail. Voilà un peu la différence.
Monsieur Crispin Kabolongo, nous vous disons merci.
Oui. Merci beaucoup, journaliste.
À vous, auditeurs des radios Okapi qui nous avez suivis dans cette édition, nous disons aussi merci de votre attention soutenue. Sachez que le programme se poursuit sur www.radiookapi.net en vous signalant que Alain Goy assurait la prise des sons et Billy Van Lotumba vous a présenté ce journal.